Denis Bajaton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la base archéologue et enseignante chercheuse à l'Université de Toulouse, mais ce n'est pas tout à fait pour ça que vous venez nous voir aujourd'hui. En fait, c'est parce que vous écrivez aussi des romans, alors des romans historiques basés, j'imagine, aussi un petit peu sur l'archéologie, sur un petit peu l'histoire, en particulier du Chablais. Et donc, le dernier ouvrage s'appelle « La Dame de Saint-Paul ». Il est sorti au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette Dame de Saint-Paul ? Alors, je rappelle que Saint-Paul, c'est Saint-Paul en Chablais, donc c'est oui. Pas très loin de Toulon, en fait.
Tout à fait. Alors, Saint-Paul en Chablais, c'est un site auquel j'ai commencé à m'intéresser à partir de 2014, en fait. Et c'est un site où se trouvait un prieuré bénédictin qui n'avait jamais été étudié. Et il existait aussi un château fort qui est aujourd'hui complètement détruit. Donc, à la demande de la commune de Bruno Gillet, qui est le maire de Saint-Paul, j'ai commencé à m'intéresser à ce site et j'ai recherché les archives du prieuré qui, malheureusement, ont disparu. Et donc, il a fallu trouver d'autres façons d'étudier le site. Et ouais. Ça m'a amené justement à rencontrer le personnage historique de la Dame de Saint-Paul.
Une dame qui a effectivement existé. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette dame ? Pourquoi est-ce qu'elle vous a intéressé ?
Alors, elle est très intéressante déjà parce qu'elle est issue d'une des plus nobles familles du Chablais au Moyen-Âge, la famille de B. Donc, ça se situe dans la vallée du Rhône en Suisse, dans le canton de Vaud. C'est connu pour les mines de sel de B. Et cette dame était seigneuresse de Saint-Paul. C'est-à-dire qu'au moment de son mariage, dans la seconde moitié du XIIe siècle, on lui donne en dot la seigneurie chablaisienne de Saint-Paul. Paul, qui comprenait également les communes de Bernex et Maxy-sur-Léman.
Vous vous rappelez aussi que l'histoire du Chablais suisse et français, tout ça, c'est intimement lié à l'époque. Hein.
Absolument. Les familles chablaisiennes, comme les Blenay ou les Allinges, avaient des possessions des deux côtés de la frontière actuelle, bien sûr.
Qu'est-ce qui va se passer pour elles ? Enfin, sans trop, naturellement, déflorer le sujet, parce que le but, c'est quand même que les gens vous lisent, naturellement. Mais...
Alors, Isabelle de Bay, elle a une vie très intéressante, déjà parce qu'elle épouse un membre de la famille de Blenay. Donc, à deux, ils forment un super couple, et ils sont tous les deux issus des familles de la très haute noblesse chablaisienne. Ils héritent de ce territoire et d'un château à Lugrin. Et Isabelle, alors seule, après le décès de son mari ou avec son mari, on ne sait pas exactement, elle va fonder le prieuré de Saint-Paul à Saint-Paul-en-Chablais. C'est un prieuré qui a la particularité de servir de nécropole dynastique à sa famille, c'est-à-dire que les membres de la famille de Blenay vont y être enterrés jusqu'au XIXe siècle.
Le château de Blenay, d'ailleurs, il y en a un donc, qui a publié, qui s'appelle aussi le château de Blenay.
Oui.
C'est pas la même chose.
Alors, c'est la même famille, hein, c'est une famille de grands propriétaires. Ils avaient plusieurs châteaux à Maxilly, à Saint-Paul, à Évian, à Publié. Et effectivement, après, l'invasion française à l'époque de la Révolution française, eh bien, ils ont perdu leurs biens. Mais la chance qu'on a, c'est que leurs archives ont été sauvegardées, elles ont été envoyées du côté de leur cousin vaudois, si bien que dans leurs archives, j'ai retrouvé une partie de l'histoire du prieuré et d'Isabelle de B.
Voilà, donc vous avez été faire un petit tour de l'autre côté de la frontière pour retrouver un petit peu tout ça.
Oui, j'y vais régulièrement, à Lausanne, à Grand-Saint-Bernard, en Suisse, en Italie aussi, à Turin.
Puis vous parliez tout à l'heure des mines de sel, qui sont d'ailleurs toujours quelque chose que l'on peut visiter.
Oui, absolument. Moi, j'encourage souvent les gens à traverser la frontière, hein, peu importe le côté d'où ils viennent, parce qu'il y a des choses très belles à voir, à visiter
des deux côtés.
Absolument.
Ouais. Très bien. Donc, roman historique. Alors, j'imagine qu'il lui arrive quand même un certain nombre d'aventures. Enfin, c'est aussi, c'est pas tout à fait un roman d'aventure, mais en même temps, c'est une manière de découvrir un peu l'histoire du Chablais à cette époque-là.
Tout à fait. Donc, ce sont des romans, hein, bien sûr, des romans historiques, mais qui sont basés aux trois quarts sur des faits réels que j'ai retrouvés dans les archives. Les personnages ont existé, les lieux ont existé. Et donc, on passe un bon moment, on se divertit, mais aussi on apprend des choses. Et souvent, les gens me disent que c'est une lecture qu'ils ont appréciée parce que ça leur a permis de découvrir l'histoire du Chablais, mais aussi de se rendre dans des lieux du patrimoine qu'ils ne connaissaient pas du tout.
Alors, ça s'adresse aussi bien aux Chablaisiens pure souche, si on peut dire comme ça, qui veulent s'intéresser à leur histoire, qu'à ceux qui sont de nouveaux Chablaisiens et qui veulent peut-être découvrir ce territoire.
Absolument. Les gens d'ici sont passionnés parce que c'est l'histoire de leur région et de leurs ancêtres, tandis que les gens qui arrivent ont un intérêt, une soif, une curiosité de découvrir l'histoire locale.
Et puis ça s'adresse aussi à nos amis de l'autre côté de la frontière, qui se rendent compte que les choses sont plus intimement liées, plus que maintenant d'ailleurs, à l'époque.
Tout à fait.
Complètement...
Mes personnages d'ailleurs ne cessent de voyager d'un côté de l'autre du lac. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'à l'époque, 13e siècle, la Savoie, c'est les deux bords du Léman et que les familles ont des intérêts, ont des relations des deux côtés du lac. Et donc, c'est une situation qui est très internationale.
Cet ouvrage, j'imagine qu'il est dans toutes les bonnes librairies. On peut se le procurer
absolument,
facilement.
Absolument, oui. On peut le trouver dans les librairies. On peut le trouver dans certains supermarchés aussi. Et puis, bien entendu, sur commande également.
Alors, si vous êtes encore un peu en panne d'idées cadeaux de Noël, ou pour un petit peu plus tard éventuellement, ça, c'est une bonne occasion de s'instruire tout en se divertissant, parce que c'est un peu le but de ce roman.
Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment donner aux gens une façon agréable d'apprendre l'histoire locale. Et souvent, les gens me disent, ça manquait parce qu'on avait envie de découvrir, mais on ne savait pas forcément comment le faire. Et donc là, grâce au roman, effectivement, qui touche tout le monde, on peut le faire facilement.
Vous aurez peut-être l'occasion, peut-être éventuellement, de le présenter à l'Académie Chablaisienne, qui s'intéresse aussi à tout
oui,
ça.
Oui, j'ai déjà fait un certain nombre de conférences à l'Académie Chablaisienne, mais plutôt pour mes ouvrages scientifiques jusqu'à présent, hein, mais pourquoi pas.
Cet ouvrage, donc, La Dame de Saint-Paul, c'est le troisième roman que vous publiez. Les deux autres étaient un peu dans la même veine, éventuellement.
Oui, alors absolument. Le premier, Le Prieur de Méhiri, est sorti en 2016. Le second, qui est une suite, Le Lépreux de Lugrin, est sorti en 2019. Et simplement, là, on était plutôt basé sur l'histoire de Méhiri et de Lugrin. J'abordais la question du prieuré, de ses chanoines, mais aussi de la famille de Lugrin, puisqu'ils avaient des relations assez importantes. Hein. Lugrin avait fondé le prieuré de Méhiri. Donc là, on est dans la même veine, simplement on se décale légèrement du côté de Lugrin-Saint-Paul cette fois.
Et ça vous occupe bien entre Toulouse et la terre natale de Tholon.
Ça m'occupe bien.
J'imagine. Sidonie Bejaton, merci.
Merci à vous.